Et ici, c'est comme si Paul livrait un secret aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est pas n'importe qui concernant la population de Corinthe. Il y avait une expression dans l'ancien temps, on disait « vivre à la corinthienne » ou « corinthiser ». Ça veut dire vivre une vie de dépravation, vivre de dépradé, etc. Hein, Corinthe, il y a plus de 100 temples à Corinthe. Vous vous rendez compte? Plus de 100 temples. Et on peut imaginer que quotidiennement, les chrétiens étaient confrontés à des cultes païens. On offrait des offrandes à tous les coins de rue. Et puis, il y avait toutes sortes d'orgies également, bien sûr. Et Paul dit à ces Corinthiens, finalement, vous avez été conduit à la sainteté, appelé à être saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors c'est une image bien sûr, c'est comme si Jésus prenait le contrôle de notre véhicule, vous avez le permis, moi aussi, mais c'est Jésus qui conduit. Et puis, il nous conduit dans la sainteté. Alors bien sûr, nous, parfois, à un feu rouge, lorsque Jésus conduit, on peut être, et parfois même on descend de la voiture, on dit « Ah Seigneur, attends, j'ai quelques courses à faire », voilà. Et puis on fait nos petites affaires. Et là, Jésus patiente avec nous. Il attend qu'on revienne. Et quand on revient dans la voiture, on n'est peut-être pas très fiers de nous, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, en tout cas on ne veut pas que le Seigneur le sache, mais il continue à nous conduire dans la sainteté. Et puis il avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, nous sommes participants de la sainteté de Jésus-Christ. Et quand Jésus voit nos écarts de conduite, quand il voit que nous sortons du véhicule, etc., pour toutes sortes de raisons, il attend patiemment, encore et encore, que l'on revienne vers lui. Et en revenant vers lui, on reconnaît, dit Seigneur, oui, je te demande pardon pour cet écart. Jésus est toujours là et il nous conduit dans la sainteté. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nous ce matin. Parce qu'effectivement, on est encore de ce monde avec nos pensées, avec nos comportements, mais la porte de la grâce, alors on va dire pour nous, c'est pas du tout théologique, mais la porte de notre voiture, la porte de la voiture de la sainteté, elle reste ouverte. Et ainsi, on peut rentrer à nouveau et puis continuer à être conduit par Jésus un peu plus loin, sur le chemin de l'éternité. C'est beau quand même, Et que le Seigneur nous aide ce matin, comme les Corinthiens, à nous souvenir, à nous rappeler que nous sommes conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sommes au volant, et qui disons, Seigneur, écoute, là tu descends, tu remontes, etc., je m'occupe de mes... Non. Il nous conduit, lui, dans la sainteté. On est appelé à être saint et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que ce matin, nous puissions rester attachés. La Bible nous dit de rester attachés aux choses d'en haut, avec une bonne ceinture de sécurité. Et puis quand on a la tentation de l'enlever, de sortir un petit peu pour voir si ailleurs c'est mieux, revenons, parce qu'il nous conduit. Amen, il nous conduit. Et ainsi, ce matin, il nous fortifie, nous encourage. Alors voilà, que la grâce et la paix, vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça va nous faire beaucoup de bien encore ce matin, de réaliser cette belle réalité. Alors on va chanter quelques cantiques. Et le premier chant nous rappelle que l'Éternel, c'est notre berger. On manque de rien. C'est un beau psaume, mais c'est surtout une belle réalité pour nous. Et on veut chanter ce chant ce matin. De tout notre cœur. L'Éternel est mon berger. On dit que Paul en a même écrit une troisième qui se serait égarée. En tout cas, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 à 6, on va lire quelques versets pour nous rappeler une vérité ce matin concernant ce que dit l'apôtre Paul ici. 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 à 6. Voilà ce que Paul dit. Il dit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou alors de votre part ?» C'est bien, les lettres de recommandation, ça peut se faire pour un travail, pour un changement de situation, etc. « Je vous recommande, monsieur, madame, un tel, etc. » Et c'est toujours, ça fait toujours plaisir, bien sûr, d'être ainsi appuyé, d'être encouragé. Mais Paul dit ceci, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre ou l'esprit vivifie. Amen. Et on retiendra pour nous cette parole dans ce contexte. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dans ce début de lettre, hein, si vous relisez un petit peu, et même dans la lettre que Paul adresse aux Corinthiens, Paul répond à ceux qui remettent en cause son ministère, qui remettent en question son appel. Alors dans ce courrier, par exemple, il dit ceci, on l'accuse de légèreté dans ses prises de décision. On dit qu'elles sont purement humaines. Hein, c'est dans 2 Corinthiens 1, 17. On dit que dans ses lettres sont sévères, elles sont fortes. Mais quand lui est présent, il est faible et il nous parle d'une... Et sa parole est méprisable. Hein, 2 Corinthiens 10, 10. Et dans tout ce contexte, bien sûr, eh bien, il est question d'une remise en question. Il est question d'une remise en question sur l'appel de l'apôtre Paul, sur sa mission, sur ce que Dieu lui a confié, etc. etc. Comment y faire face ? Comment Paul va-t-il réagir ? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on nous remet en question ? Ça nous arrive, hein ? Alors que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit même dans l'Église, comment on réagit quand on nous remet en question ? Et puis, j'oserais aller un peu plus loin, comment je réagis quand je me remets en question aussi ? Parce qu'il nous arrive parfois de nous remettre en question, alors de manière personnelle, dans la famille, dans le travail, dans l'Église, on se remet aussi en question, et comment on réagit ? Qu'est-ce qui peut nous aider ce matin, bien, dans ces remises en question, à persévérer et à poursuivre là aussi bien, le plan que Dieu a prévu pour nous ? Eh bien, ici, Paul va nous rappeler ce principe, cette vérité, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Un puissant encouragement pour ce matin face aux remises en question. Alors, parfois, elles peuvent être légitimes, hein, je ne dis pas ça, hein, que ce soit de l'extérieur ou personnel, on peut, et parfois, on doit se remettre en question, mais ici, Paul eh bien, nous donne une parole pour nous aider à persévérer et à aller plus loin. Alors, il parle d'abord, il dit « notre capacité ». Notre capacité. Capacité, rendre capable, ça fait partie de la même famille de mots dans l'original, et rendre capable, c'est littéralement équiper quelqu'un d'un pouvoir adéquat pour accomplir une fonction, une tâche. Par exemple, un pompier est équipé d'une lance à incendie, pour quoi faire ? Pour éteindre le feu, on est bien d'accord. Un soldat est équipé d'une arme pour défendre sa nation. Un médecin est équipé d'un stéthoscope, alors c'est une image, hein, bien sûr, hein. Il y a la blouse blanche aussi, etc., hein, mais pour soigner son patient, voilà. Et chaque corps de métier est équipé d'une autorité, de quelque chose, pour accomplir une tâche. Et ici, donc, rendre capable, capacité, eh bien, c'est cette même pensée, c'est équiper donc quelqu'un d'un pouvoir qui est adéquat, qui est en fonction de sa fonction, pour accomplir, bien sûr, une tâche. Une capacité, c'est donc un équipement que Dieu nous donne pour accomplir une mission, pour accomplir un plan, pour accomplir sa volonté. C'est un équipement, c'est un revêtement. Alors on peut en citer quelques-uns, je vous en donne. Acte 1-8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. etc. Voilà, un revêtement de puissance, un équipement pour être ses témoins. C'est ce que Dieu, là aussi, bien nous donne, une capacité. Éphésiens 6, 11, on en parlait dernièrement dans l'étude biblique, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Là aussi, c'est un équipement. Alors, en parallèle, un équipement militaire, on est engagé dans un combat spirituel et Dieu nous donne cet équipement, cette capacité. Et puis, 2 Corinthiens 3, 6, on l'a lu, « Il nous a rendus aussi capables d'être serviteurs. » D'autres traductions disent « ministres » du Nouvelle Alliance. Et Paul dira qu'on est des ambassadeurs pour notre Dieu. Et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et l'exemple de l'apôtre Paul est intéressant pour bien comprendre la notion de capacité, parce que quand on relit Actes 22, quand on relit Philippiens 3, Paul nous parle de son parcours de vie. Il est assez impressionnant quand même. Il est né à Tarse, bien sûr. Il a été circoncis le huitième jour. Il dit qu'ensuite, il est issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est hébreu, né d'hébreu. Il a été élevé à Jérusalem et en plus formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi pharisien. On pense certainement qu'il faisait même partie du Sanhédrin. Vous voyez un petit peu le personnage, Saul de Tarse. On y trouve donc une généalogie remarquable, un enseignement de qualité, des compétences rares, hors normes, une position sociale élevée, enfin tout pour plaire, tout pour être choisi par Dieu, pour être un instrument entre ses mains. Eh bien non, raté. C'est pas sur ses qualités humaines, sur ses compétences humaines, sur sa généalogie que Dieu va le choisir. Que dira Paul ? Il en est conscient. Dans Philippiens 3, 7, voilà ce que Paul va dire. Vous connaissez ce passage, mais il est bien conscient que ce ne sont pas sur ses critères que Dieu va le choisir. Et il va le partager de cette manière, Philippiens 3, 7, mais ses qualités qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. On retiendra la foi tout à l'heure, on va en parler. Et Paul ici confirme que toutes ces qualités, finalement, bien, il n'en tient plus compte. Il n'en tient plus compte face à l'appel de Dieu qu'il a rendu capable. Dieu a rendu capable Saul de Tarse. C'est lui qui va l'équiper pour être un serviteur de Christ. Juste une remarque quand même. Ça ne veut pas dire maintenant qu'au cours du ministère de Paul, Paul va négliger tout son passé. À dire, bon, tout ça, je regarde. Ça comme la boue, l'enseignement, etc. Non, non, pas du tout. Il va s'en servir. Par exemple, quand il est arrêté par des Romains, il s'adresse au commandement des Romains en grec. Et là, le commandant est surpris, il dit, mais tu connais le grec, t'es pas cet Égyptien, etc., etc. Et puis ensuite, il rappelle à ce Romain, quand on veut le faire fouetter, qu'il est aussi citoyen romain. Ah oui, ok. Et finalement, bien, tout ce qu'il a vécu dans le passé, même si c'est des compétences, des droits qu'on lui a donnés, il ne va pas les balayer, mais il considère désormais eh bien que malgré le degré de ses compétences qu'il a et qui sont remarquables, c'est pas ça qui va intéresser Dieu quand il va l'appeler. C'est pas ça qui va intéresser Dieu, c'est pas ça qui va être l'élément déclencheur pour que Saul de Tarse devienne Paul et soit ensuite un instrument entre ses mains. C'est pas ça. La capacité doit prévaloir sur les compétences. Nous avons tous des compétences. Certains ont un cerveau à 3, 4, 5 étages, c'est super. Et que Dieu soit béni pour cette réalité. En tout cas, tous ces dons viennent de Dieu. Mais pour Dieu, ce qui prévaut, ce n'est pas les compétences, c'est d'abord la capacité. Les capacités que lui nous donne. Et on va expliquer un petit peu. Parce qu'ensuite, Paul dit ceci, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, ce qui est important pour vous, c'est de vous rappeler, quand vous êtes remis en question, quand on vous remet en question, quand vous vous remettez en question, de dire, ok Seigneur, peut-être que là, bien, pour l'instant, je ne sais pas trop où j'en suis. Il me manque des compétences, peut-être humaines, il me manque des UV ou je ne sais pas quoi, moi, pas des UV, si, des unités de valeur. Les UV, c'est pour le bronzage. Mais il vous manque peut-être les deux, le bronzage et les unités de valeur. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas ça le plus important. Mais Seigneur, ce que je veux me rappeler ce matin, c'est que mes capacités, elles viennent de toi. Les capacités viennent de Dieu. Et Dieu, est celui qui nous rend capables. Est celui qui nous rend capables, quel que soit ce qu'il a prévu pour nous. Parce que ce n'est plus du domaine de nos compétences. Et on va le voir maintenant, parce qu'il est dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si les compétences manifestent ce que je sais faire, ce que j'ai appris, ah, moi j'aime bien bricoler, j'ai des compétences, je suis doué là-dedans, etc. C'est super. Dieu pourra s'en servir. Mais imaginez que, eh bien, à un moment donné, Dieu vous dit, maintenant, ben, tu vas apprendre la guitare. Seigneur, t'as vu mes doigts que j'ai? C'est des doigts de maçon. Je peux pas. Et si Dieu me dit, tu vas apprendre la guitare parce que je vais te donner la capacité de le faire, eh bien là, on va par la foi dire, Seigneur, ok, je vais saisir une guitare. Je connais un jeune qui était à l'école biblique, il est rentré à l'école biblique, il ne savait pas du tout jouer de la guitare. Voilà. Et il m'a étonné parce que en un an, il est devenu un guitariste, pour moi, émérite. En un an, Dieu lui avait donné une capacité, quelque chose qui venait d'en haut. Et ça n'avait rien à voir des compétences intellectuelles, musicales, rien du tout. Alors quand on a les deux, c'est bien, mais ce qui prévaut ce matin, c'est la capacité. Et ces capacités, elles viennent de Dieu. Et finalement, la capacité, à un moment donné, elle va être associée à la foi. C'est un acte de foi. Seigneur, ça je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai jamais pensé à ça, mais puisque tu me demandes, puisque cette capacité vient de toi, alors je fais un acte de foi. Alors je dis oui. Alors, eh bien, Seigneur, j'accepte. Guide-moi, conduis-moi. Hébreux 11. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein. Tout à l'heure, notre sœur Céline a dit, eh bien, j'ai une voiture. Je ne l'ai pas encore, mais je l'ai. Ben voilà, hein, c'est ça, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là encore, Paul est toujours là pour nous le rappeler. Lorsque Dieu demande à Ananias, vous vous rappelez, hein, de rencontrer un certain Saul de Tarse, eh bien, devant les réticents d'Ananias, j'aime bien ce passage, hein, il est naturel, on est comme ça, hein, on explique au Seigneur ce qui se passe sur cette terre. Ben, Seigneur, tu ne sais pas quand même que Saul de Tarse, il nous persécute, etc. Et Dieu aime bien ce genre de dialogue. Parce qu'on ouvre notre cœur, on partage avec lui. Et donc, Dieu va dire à Ananias, « Vas-y quand même, parce que cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour faire connaître mon nom au nom juif, au roi, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Voilà. Vas-y, c'est mon appel, c'est les capacités que je vais donner à Saul de Tarse, etc. Mais vas-y, parce que bien, toutes ces capacités viennent de moi. Et quand Dieu me rend capable, eh bien, c'est qu'il veut agir avec moi au-delà de mon cercle de compétences, au-delà de ce que je sais, au-delà de ce que je connais, au-delà de ce que j'ai appris. C'est un acte de foi. C'est un pas de la foi. Le Seigneur m'a dit, maintenant, bien voilà, dans tel domaine, je vais te conduire, je vais te guider, ma capacité va venir sur toi. Et à un moment donné, eh bien, il y a un acte de foi. Je ne sais pas si certains ont vu le film, alors je le dis en français, « Face aux géants ». C'est un beau film qui nous raconte l'histoire d'une équipe de football américain et qui donc doit affronter, bien sûr, d'autres. Et le coach est chrétien, voilà. Et la plupart de ces joueurs sont chrétiens aussi, dans une université, vous voyez un petit peu le contexte. Et puis à un moment donné, bien sûr, il y a l'entraînement. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des entraînements de football américain, mais ça bouge, hein. Donc on prend des chocs, etc. Et puis donc, il y a une séance à un moment donné, c'est chacun se met à quatre pattes, et puis prend un camarade sur le dos, là aussi dans le sens inverse. Enfin, c'est un petit peu étonnant comme entraînement, mais on le fait. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. C'est extraordinaire quand même, hein, comme entraînement. Donc voilà, chacun prend un camarade sur le dos, se met à quatre pattes, et puis avance comme il peut, etc. Alors, il y en a qui font 20, 30, 40 mètres, etc. Les plus doués peut-être arrivent à milieu du terrain, mais pas plus. Et là, dans le lot, il veut former un pilier, un stopper, hein, un gars qui a une bonne masse, etc. Et il le voit qu'est le dernier, qui est vraiment à la traîne, qui n'arrive pas, qui souffle, etc. Alors, il va lui refaire le même exercice, mais en lui bandant les yeux. Et en lui disant, désormais, eh bien, tu vas écouter ma voix. Tu vas écouter ma voix. Il lui bande les yeux et il recommence, il est seul. Et puis bien sûr, il fait 10 mètres, il s'écroule, j'en peux plus, je ne peux plus aller plus loin. Et le coach lui dit, écoute mon gars, bien, tu es capable de le faire, relève-toi et puis vas-y, etc. Il fait encore 20 mètres, il est fatigué, il n'en peut plus, etc. Et puis le coach toujours, il a les yeux bandés, il ne voit rien du tout. Le coach lui dit, vas-y, continue, tu peux, tu as encore de l'énergie, allez, donne-moi encore 5 mètres, 5 yards, etc. Et il le fait, il souffre, il se relève, c'est dur, mais il écoute son coach. Et au bout de plusieurs minutes, eh bien, le coach lui dit, eh bien, écoute, c'est bon, tu peux arrêter et tu peux enlever maintenant ton bandeau. Et là, il n'en croit pas ses yeux, parce qu'au bout, lorsqu'il a fait le premier essai, il a fait à peine 10 mètres. Là, il a pratiquement parcouru les trois quarts du terrain, mieux que les autres. La leçon, c'est que par la foi, parce qu'il ne voyait plus rien, simplement en écoutant ce que son coach lui disait, eh bien, il a dépassé ses limites. Et le coach lui a appris ceci, c'était plus une question de compétence, une question de capacité que le coach voulait lui faire recevoir, la capacité. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous, eh bien, c'est que Dieu veut travailler avec nos capacités, celles qu'il nous donne. Béni soit Dieu pour nos compétences, elles sont utiles dans l'œuvre de Dieu, hein, mais ce qui prévaut, eh bien, c'est ce que Dieu nous donne, la manière dont on nous équipe. Et là, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, Seigneur, c'est vrai que dans ce domaine, je ne suis pas compétent. J'ai jamais peut-être même pensé. Je ne sais pas faire. Je ne pourrais pas faire. Mais Dieu nous dit, écoute ma voix. Relève-toi. Tu souffres. C'est peut-être pas ton domaine de compétence, mais je suis avec toi. Philippiens 2, 13. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et puis il y a quand même Romains 1, 17 que vous connaissez par cœur. Et le juste vivra par la foi. Et le juste vivra par la foi. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et quand nous réalisons cela, lorsqu'on nous remet en question, lorsqu'on se remet en question, eh bien oui, on peut faire un bilan, dire « Seigneur, là, c'est vrai, ce que je me dis sur moi-même est peut-être juste, mais la capacité, elle vient de toi. Alors je veux persévérer, je veux me relever, je veux me laisser encourager, je me laisser fortifier, parce que, eh bien, ça vient d'en haut et on termine. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Elle vient de Dieu. » Pour terminer, ce qui peut nous rassurer ce matin, c'est que, Dans notre parcours de vie, dans ce que Dieu nous demande de faire, on n'y est absolument pour rien. On n'y est pour rien, parce que tout vient d'en haut. Et finalement, de dire, Seigneur, écoute, eh bien, je reçois ce que tu me demandes, je comprends cette capacité désormais à laquelle tu m'appelles, alors je fais un acte de foi et puis j'y vais. Et si Dieu nous appelle, eh bien, il va nous équiper, il va nous secourir, il va nous relever. Il va nous conduire étape après étape et on n'y est pour rien du tout. Alors, et quelque part, ça doit quand même nous rassurer, puisque Dieu n'est pas incohérent avec nous. Quand il nous donne une capacité, c'est pour qu'on puisse bien sûr l'appliquer et puis la vivre pleinement. Alors, ce matin, bien, quelles que soient vos capacités, ce que Dieu vous demande, et même si pour l'instant vous avez l'impression d'être comme en arrêt, ou alors où les choses sont floues encore, les yeux sont bandés, hein, comme ce brave footballeur américain, persévérez, faites confiance au Seigneur dans ce qu'il vous demande, dans ce qu'il vous dit, écoutez sa voix, et puis avancez par la foi, parce que cette capacité, elle vient bien de Dieu. Ce n'est pas le produit de ma compétence, ce n'est pas de mon intelligence, même si c'est important, mais cette capacité, elle vient de Dieu. Et j'aime bien quelques textes pour conclure. Jacques 1, 16, 17, voilà ce qu'il est dit. Et l'adversaire souvent veut semer la confusion dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs, disant « Mais écoute, c'est pas la peine d'aller plus loin. Est-ce que tu es bien sûr que c'est Dieu qui te l'a demandé, hein? Et puis écoute, tu n'es pas capable. Hein? Regarde encore toutes tes lacunes, toutes tes faillites, etc. » Jacques 1, 16, 17, voilà ce qu'il est dit. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bien fait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout descend d'en haut, d'en haut. Hein, j'aime bien cette pensée aussi de Paul qui dira « Mais attachez-vous aux choses d'en haut. » Donc, choses d'en haut. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Oui, avec, vous vous rappelez, la définition de d'être rendu capable, c'est donner une autorité pour une tâche à accomplir. Et ce matin, eh bien, le Seigneur nous a fait une promesse aussi, de cette puissance, avec cette capacité pour accomplir ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qui fait la force d'un petit bonhomme bleu avec une casquette, etc., quand il agite, enfin, je ne sais pas s'il y a une casquette, maintenant ils ont un autre équipement, hein, mais quand vous le voyez, ce petit bonhomme bleu sur la route qui vous fait ça avec un sifflet, pourtant, hein, vous pouvez, il n'a rien de particulier, sauf qu'il représente une autorité. Ça s'appelle gendarme. Voilà. Et pour bien vous dire que c'est un gendarme, hein, quand il se présente à vous, j'ai jamais compris, hein. Gendarmerie nationale, comme si c'était le Père Noël qui nous visitait, etc. Oui, bien sûr, c'est la gendarmerie nationale. Mais ça, faut pas le dire, hein. Faut pas le dire parce que après, ça peut mal tourner. Mais bon, voilà, sa force. C'est Monsieur Tout le Monde. Mais dès qu'il revêt son uniforme, etc., et son sifflet, eh bien, il a cette capacité et puis cette autorité, hein, pour accomplir, bien sûr, sa mission. En tout cas, Jacques 3:17 nous dit ceci également, la sagesse d'en haut. Besoin de sagesse aussi, hein, dans notre vie, là où on est, etc. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Vous voyez, Seigneur, il me faut la sagesse qui vient d'en haut. Hein, parce qu'on peut être sage parfois à nos propres yeux, calculer, réfléchir, mettre en place des stratégies, etc., pour qu'à la fin, bien, un coup de téléphone, un courrier, hop, et puis tout est fini. Tout est fini. Mais ici, il est question de la sagesse d'en haut. Hein, tout don parfait vient d'en haut. Et ce matin, nous voulons dire, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, oui, ce matin, peut-être qu'on nous remet en question, peut-être qu'on se remet en question, mais alors, Paul nous dit ceci, rappelez-vous au moins une chose, c'est que notre capacité, votre capacité, elle vient de Dieu. Et en cela, Dieu n'est pas incohérent. Lorsqu'il nous donne une capacité, il nous donne l'autorité avec pour que nous puissions accomplir ce que lui, il veut. Et cela indépendamment de notre éducation, de notre intelligence, de nos compétences humaines, de notre savoir. Oui, Dieu va se servir de cela, mais rappelons-nous, ce matin, ce qui prévaut, c'est la capacité sur les compétences. Et quand nous sommes dans le champ d'action de la capacité de Dieu, alors bien, Dieu nous conduit, Dieu nous ouvre des portes extraordinaires, quel que soit notre âge, quelle que soit notre fatigue, quelle que soit notre charge mentale, etc. Il ouvre des mers rouges. Et il se révèle comme étant un Dieu de grâce et de miséricorde. Alors, il y a un beau verset pour conclure. C'est Matthieu 6, 33. Je crois que vous le connaissez tous par cœur. C'est une parole de Jésus qui dit ceci. Eh bien, cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Amen. Hein, ou en plus, seront ajoutés. Et moi, je suis toujours émerveillé devant cet échange avec Dieu. Dieu me dit, si tu t'occupes de mon royaume, moi je m'occupe de toi. Si tu t'occupes de mes plans, si tu t'occupes et si tu mets en œuvre mes capacités, alors moi je m'occuperai de tes compétences, moi je m'occuperai de ta formation. C'est extraordinaire, cet échange. Et on n'y perd rien du tout. Et on n'y perd rien. Alors que Dieu nous aide encore aujourd'hui, dans notre quotidien, cette semaine, et puis les semaines à venir, à persévérer, à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données par-dessus, parce que notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Amen. Pour moi, comme pour chacun, personne n'est oublié ce matin. Et quand et on le voit dans l'Écriture, hein, Dieu est capable, et ce n'est pas péjoratif, de se servir de n'importe qui, et ce n'est pas du tout péjoratif, pour des choses qui nous dépassent, hein, pour des choses que le monde n'aurait jamais voulu, de nous en tout cas, et pourtant il le fait. Amen. On prie le Seigneur quelques instants, afin de nous encourager, de vous encourager, face à certaines remises en question, eh bien, parlez-en au Seigneur, et puis parlez-en à vous-même, et puis dites, bien Seigneur, c'est vrai, ma capacité, elle vient de toi. Alors je veux là aussi bien continuer à te faire pleinement confiance. Amen.